Septième partie. Interstellar. Chapitre 32. Diego. À l'issue de la remise des médailles, il m'est impossible de rester plus longtemps. J'ai pu changer mon billet afin de partir de Bordeaux, mais mon vol pour Cologne est prévu à 19h. Il ne faut pas traîner. Après une escale à Francfort, j'arriverai sur place aux alentours de 23h30. Ça me paraissait loin d'être idéal, cette longue journée intense la veille des épreuves. Mais après le shoot de bonheur que je viens de recevoir, je revois mon jugement. C'était probablement la meilleure des préparations mentales. La journée n'était pas seulement heureuse et débordante d'amour, elle était aussi terriblement motivante. Après avoir vécu l'apesanteur, comment ne pas vouloir réitérer l'expérience? J'ai plus que jamais envie de réussir, pour moi, mais aussi pour tous les extraordinaires. Tandis que je serre chacun dans mes bras, mon téléphone vibre. Je le consulte machinalement et me fige. Anna me demande si quelque chose ne va pas. On peut le dire comme ça, oui. Mon vol est annulé à la suite d'un problème technique. Il me reporte sur celui de demain, départ 13h10. Nous savons tous que les épreuves débutent là-bas à 10h. C'est un coup dur. Pendant que j'appelle la compagnie aérienne, mes compagnons, conscients que l'absence de marge est due à cette journée passée ensemble, se mettent en bataille. Certains consultent les sites de réservation des autres compagnies, imaginant des trajets plus fous les uns que les autres. Mais le compte n'est pas bon. Quelle que soit la ville de départ, soit les vols sont pleins, soit les horaires ne fonctionnent pas. Le stress commence à me gagner. Il a bien été précisé qu'une fois la date de passage confirmée, aucun report n'était possible. L'organisation personnelle et la ponctualité absolue aux rendez-vous importants font partie de la sélection. Je m'assieds sur le sol de cette salle impersonnelle dans laquelle les médailles nous ont été remises. Anna se pose à mes côtés, m'entoure de ses bras, me dit que nous allons trouver une solution, mais je n'y crois pas. Et merde! Alors c'est comme ça que tout finit? Toute cette aventure, tout cet investissement physique et mental pour que ce rêve de gosse se fracasse sur un putain de problème d'avion? Et si on y allait avec le van? La voix d'Anna vient de me tirer de ma colère. C'est gentil d'évaluer toutes les possibilités, mais Bordeaux-Cologne, c'est à minima 12 heures de route. 11h15, très exactement, d'après Google Maps. Disons 13 heures en rajoutant des pauses rapides, on peut le faire. C'est Côme qui a fait tourner l'application. Tous sont sur la balle. Requinqués par cette nouvelle option, ils sont dingues. Vous n'envisagez quand même pas ça sérieusement. Je dois être à 9h30 sur place. Il faudrait partir à 20h30. Il est moins de 18h, on est large. C'est Nabila qui a fini ma phrase. Et c'est Bérénice qui enchaîne. Si chacun se relaie pour conduire 3 heures et que tu dors tout le trajet, tu seras à l'heure et reposé. Le dos un peu cassé, mais ce sera pas pire que dans la grotte. Je ne peux pas accepter. Ils ont une vie, un boulot pour lequel ils doivent être à l'heure le lendemain. Ce périple, c'est de la folie. Je le leur dis. Axel me prend par les épaules et me regarde droit dans les yeux. On est un groupe. On s'est tous donné à fond. Alors le succès de l'un d'entre nous, c'est un peu le nôtre. Personne ne va se faire virer parce qu'il a été absent un jour pour aider un ami à réaliser le rêve de sa vie. Et au pire, un médecin nous fera des certificats médicaux, hein, Anna?
Le médecin approuve toute la démarche. Allez, on y va, c'est parti!
Et c'est comme ça que 20 minutes plus tard, je me retrouve dans le van, accompagné d'Anna, Axel, Bérénice et Ted. Après des débats houleux avec notre Marseillaise préférée, qui voulait être de la partie, il a été convenu qu'il serait plus raisonnable qu'elle reste à Bordeaux avec Côme ce soir et qu'il rentre en avion dès que possible. Elle a fini par accepter à contre-cœur, consciente d'avoir suffisamment poussé les limites de son corps. Ted a proposé de venir avec nous. Il ne fait pas partie du jury de sélection, n'avait prévu de rejoindre Cologne que la semaine suivante, mais ayant toujours quelque chose à faire là-bas, d'après ses propres termes, il s'est joint au convoi avec joie. Et au grand soulagement des autres conducteurs aussi. Une bonne partie du trajet va s'effectuer de nuit. Il va falloir une rotation régulière pour éviter toute somnolence. Entre discussions sur tout et rien, chants et tubes des années 90 à fond dans les enceintes, sur l'insistance d'Anna qui ne jure que par The Rhythm of the Night, What is Love ou Mr. Vain, j'ai l'impression d'être plongée dans Little Miss Sunshine, Ce film, où une famille aussi déjantée que touchante se lance dans un road trip délirant afin que la petite fille puisse participer au concours de beauté dont elle rêve. Ted reste en retrait, mais il faut dire qu'il ne fait vraiment partie ni du groupe, ni de la même génération, alors ça me semble assez logique. Dans les moments plus calmes, je lui pose des questions sur sa sélection par la NASA en 1975. Mais il ne souhaite pas en parler. Il prétend qu'il s'agit de respect, de confidentialité des épreuves. Mais je sens bien qu'il n'y a pas que ça. Et le regard intrigué que me lance Anna m'indique qu'elle pense la même chose. Je note mentalement de me renseigner plus tard. Au cours du trajet, je remarque à quel point Bérénice et Axel ont évolué. Chacun s'est libéré de ce qui l'alourdissait. Bérénice est plus calme, plus posée. Elle ne peut toujours pas s'empêcher de commenter tout ce que fait son fils, mais elle fournit des efforts visibles pour se tenir éloignée et ne pas juger. Quant à Axel, sa tendance à s'abriter derrière une façade de macho s'est atténuée. Il a commencé à vraiment prendre confiance en lui. Il abandonne progressivement sa carapace. Lorsque ses enfants sont venus le voir à Noël, il leur a parlé de sa reconversion. Ça les a impressionnés. Mais les relations sont encore distantes. Quoi qu'il en soit, on voit percer des nuances chez lui et on sent une vraie sensibilité. Jamais je n'aurais cru que Bérénice et Axel s'entendraient si bien en les voyant débarquer la première fois. Même si tout le monde est au courant qu'ils sont ensemble, lorsque Côme est dans les parages, Bérénice reste sur la réserve avec Axel. Mais puisque Côme n'est pas là, tous deux s'embrassent à tout bout de champ, à tel point que c'en devient gênant. En planifiant le trajet, Axel a constaté que nous passerions à proximité immédiate du domicile de ses enfants et de son ex-femme, vers 3h du matin, heure à laquelle le nouveau mari serait au travail. Axel a eu une idée aussi saugrenue que géniale. Il nous l'a exposée, nous avons ri, et surtout nous avons tous approuvé le détour, qui ne prendra qu'une vingtaine de minutes. Aussi sommes-nous excités comme des gosses lorsque nous nous engageons dans l'allée proprette et bien rangée de ce quartier huppé de Valenciennes. Il est 3h12 lorsque le van s'immobilise. Axel, qui n'est jamais venu jusqu'ici, vérifie que le nom sur la boîte aux lettres correspond. Au moment de sonner, il stoppe son mouvement et revient dans le van. Je pense qu'il abandonne l'idée, mais j'ai tout faux. Il grimpe au volant et se met à klaxonner. Tandis que des lumières apparaissent aux fenêtres, il nous lance « Je veux qu'ils s'en souviennent de cette nuit où leur père les a réveillés avec l'un des plus grands astronautes de tous les temps !» Et en effet, passé l'instant de surprise et les insultes de son ex-femme, la joie des deux fils d'Axel, eux aussi fans d'espace, n'a d'égal que la lueur de fierté dans leurs yeux lorsqu'Hansen se lance dans une tirade grandiloquente à propos d'Axel. Son courage, sa volonté, son intelligence, sa réussite, et son amour incommensurable pour ses enfants. Axel n'en attendait pas tant et Ted semble tout à fait sincère. Les voisins réveillés en pleine nuit, d'abord passablement agacés, se lancent eux aussi dans une séance de selfie. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un astronaute dans son jardin. Et l'étreinte à laquelle Axel a droit de la part de ses ados nous émeut tous profondément. Au bout du compte, les enfants d'Axel le supplient de rester avec eux. Anna dégaine un certificat médical assorti d'un arrêt de travail de 2 jours et Bérénice et lui décident de passer le reste de la nuit à l'hôtel Formule 1 d'à côté. Cologne n'étant plus qu'à 4 heures de là, nous pouvons finir le trajet sans eux. Lorsque nous reprenons la route, c'est au tour de Ted de conduire. Je m'installe à côté d'Anna à l'arrière du van, mais aucun de nous n'a sommeil. Anna me sourit et me montre son téléphone. Je constate qu'elle vient de se lancer dans des recherches sur la sélection de Ted en 1975. J'aimerais faire la même chose, à vrai dire, mais j'ai reçu une demande urgente de ma compagnie d'assurance concernant le cambriolage de ma maison de Tenerife. La police étant sur la piste de récidivistes, il m'est demandé de consulter la vidéosurveillance installée devant chez moi afin d'identifier des visiteurs inconnus sur l'ensemble du mois de décembre, puisqu'il est probable que les individus aient effectué des repérages. La compagnie d'assurance, qui fait preuve d'un zèle me laissant à penser que les 10 récidivistes ont dû lui coûter un paquet d'argent, a effectué le plus gros du travail, à savoir des captures d'écran de chaque visite reçue au mois de décembre. Des dizaines donc, puisque j'étais présent 2 semaines sur place, dont une avec les extraordinaires. Je n'ai aucune envie de me farcir ces photos floues, mais je n'ai pas le choix. Autant me connecter à leur serveur maintenant, et si je m'endors, eh bien ces quelques instants de sommeil seront toujours ça de pris. Les premières images montrent le facteur, un livreur de matériel de piscine que je connais bien, puis mes invités du mois qui apparaissent par ordre d'arrivée. Ted, Bérénice, Côme, Axel, et enfin Nabila et Anna. Ensuite, nos allées et venues s'enchaînent. Je fais défiler à grande vitesse ces images dénuées d'intérêt, quand l'une d'elles attire mon attention. On y voit Ted en compagnie d'une femme aux longs cheveux gris que je ne connais pas. Je pense d'abord à une erreur ou à quelqu'un qui aurait sonné pour demander son chemin, mais le redatage des clichés indique que cette femme a débarqué quelques minutes seulement après le départ de notre groupe, le jour où Ted était seul chez moi, et qu'elle n'est repartie que 20 minutes plus tard. C'est trop long pour une simple erreur, pas assez pour une rencontre amoureuse, sans vouloir présager de l'endurance de Ted. Je m'apprête à montrer l'image à Anna, mais lorsque je me tourne vers elle, je constate qu'elle est livide.